bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce soir donc au Musée des Beaux-Arts d'Angers dans le cadre de la 3e édition du Elle Festival organisé par le Chabada, qui nous concocte cette programmation tous les deux ans à la croisée des chemins du féminisme et des arts, et en particulier de la musique. On le verra là aussi ce soir. Le thème de cette rencontre est donc la figure de la sorcière dans l'art et dans l'imaginaire collectif. On va évoquer ça par deux biais, donc celui de la peinture du 19e siècle à nos jours, avec Leïla Jarbouet, donc historienne de l'art et conservatrice en chef des peintures et des arts graphiques au musée d'Orsay, mais aussi celui de la musique tout à l'heure, à travers l'expérience de l'artiste angevine Colline Linder, qui est à la fois plasticienne et musicienne. Alors l'iconographie de la sorcière, c'est un thème récurrent dans l'art pictural. Il prend des formes différentes à travers les années et selon les artistes. Mais des caractéristiques communes émergent lorsqu'on prononce le mot sorcière. Est-ce que vous, de votre côté, vous faites partie des personnes qui visualisent une vieille femme au nez crochu, un balai dans la main, un livre de potions dans l'autre main, entourée de chats noirs? Ou est-ce que vous êtes de ceux à qui ce mot évoque plutôt une femme à la beauté dangereuse, aux longs cheveux et à la peau diaphane, qui cache sous ses attraits un grand pouvoir d'envoûtement? Ou alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui voient plutôt une femme dont la puissance vient de ses savoirs et de son lien avec la nature ? Il y a bien des façons de se représenter cette figure de la sorcière, on va le voir tout au long de cette rencontre. Dans un premier temps, du coup, on va explorer comment les artistes peintres au tournant du XXe siècle se saisissent de cette figure de la sorcière et de ce que cela dit aussi de nos sociétés. Alors pour commencer, on va s'intéresser à la façon dont cette figure a inspiré nos artistes peintres, plutôt en France, pour cette rencontre. Et donc ce thème, c'est celui de l'exposition Sorcière, qui était présentée du 7 juin au 16 novembre 2025, donc au musée de Pont-Aven en Bretagne. Alors Leïla, tu en es l'instigatrice et la commissaire avec Sophie Kervran. Ce n'est pas forcément une évidence de s'intéresser à cette figure de la sorcière dans l'art. L'idée de cette exposition, je crois, en réalité germé dans les réserves du musée d'Orsay, devant un certain pastel d'un artiste peintre français qui s'appelle Lucien Lévy-Durmer. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette idée, qui elle-même est pavée de plein de coïncidences qu'on pourrait dire prédestinées presque?
Alors le sujet des sorcières, en fait, un sujet qui pose la question des hiérarchies, des frontières, la porosité des frontières, et dans les arts aussi, en fait. Et donc il y a des peintures, mais il y a aussi des objets d'art, des sculptures, des estampes, des livres, des photographies. Enfin, c'est vraiment une exposition qu'on voulait multi-technique, sans frontières, sans hiérarchie entre les arts, et aussi centré sur le 19e, évidemment, puisque ça part du musée d'Orsay avec un musée partenaire qui est le musée de Pont-Aven. Aussi, donc, enfin, une ouverture, et il y a aussi des artistes contemporaines qui ont été invités dans l'exposition. Donc, Colline, si jamais des œuvres t'évoquent des choses par rapport à ton travail, parce que justement, on voulait vraiment, sur ce sujet, ouvrir les frontières et décloisonner. C'était vraiment important. Alors, on est parti, effectivement, d'un pastel. Dans les réserves, qui n'est pas dans l'exposition, là, vous verrez pas le visuel, mais sur Internet, vous le trouvez facilement. Parce qu'en fait, les pastels, vous savez, c'est une technique très, très fragile. C'est vraiment de la poudre. Et quand c'est pas fixé, enfin, vraiment, ça peut,
se désintégrer. Voilà.
Donc, on l'a fait examiner par une restauratrice et il y avait la poudre de pastel collée au verre. Donc, on s'est dit, non, même si c'est pas très loin, si c'est en France, on va pas le faire voyager. Mais c'est donc une œuvre créée par Lucien Lévy-Durmer, qui a aussi pratiqué la céramique et qui adorait pastel, un artiste symboliste de la fin du 19e siècle. Et c'est une sorcière très mystérieuse, qui ambivalente, qui résume un peu les ambivalences du 19e, de l'image de la sorcière au 19e siècle, c'est-à-dire qu'elle est assez angoissante, parce que c'est une figure nocturne, sombre, aussi un peu associée à la mort, de par les animaux avec qui elle est. Alors je ne me rappelle plus exactement, il y a une chauve-souris, il y a une salamandre... mais en même temps, elle est très belle, elle a un côté serein, enfin voilà, donc elle a vraiment beaucoup d'aspects réunis en elle. Et donc on travaillait sur un artiste qui s'appelle Aubrey Beardsley, juste après le Covid, un artiste britannique que vous allez voir aussi, non, enfin qui est dans l'exposition, mais qui a inspiré beaucoup de dessinateurs de la fin du siècle, avec Emma de Chornia, donc une doctorante en fait, qui a beaucoup apporté à l'exposition. Et l'exposition s'ouvre en fait, parle de, enfin vous verrez des œuvres créées en France, mais aussi des œuvres britanniques comme celle-ci, belges, suisses. Enfin, voilà, on a un peu ouvert, mais évidemment on s'est restreint à ce qu'on connaît, enfin à la sphère occidentale, hein, c'est parce que vu le sujet, on s'en serait jamais sorti.
Partir loin.
Voilà.
Et donc avec Emma, vous êtes devant ce pastel et qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que tout de suite vous vous dites tiens, il y a quelque chose à faire peut-être avec cette figure de la sorcière?
Bah, en fait, c'est vrai que on s'est dit que la sorcière c'est un sujet qui intéresse énormément, enfin en ce moment, enfin c'est vraiment une figure, un archétype et qui a un pouvoir de
d'évocation, voilà, ou dans l'imaginaire,
vraiment ouais. Un mythe. Mais il y a beaucoup de livres sur les sorcières, mais finalement des livres d'histoire de l'art, il y en a quelques-uns, mais très peu. Enfin, finalement, et c'est un sujet qui n'avait pas été abordé dans une exposition pour cette période du 19e siècle, alors que tout converge en fait, finalement, en travaillant sur les animaux dans l'art, par exemple, en travaillant sur les artistes femmes, en travaillant sur les liens entre la nature et les créateurs à la fin du 19e, en travaillant sur la femme fatale, le symbolisme, les liens entre les arts. Finalement, on se rend compte que la figure de la sorcière, qui est très mouvante, qui a des frontières très ouvertes, est omniprésente dans les arts. Voilà, donc on est parti de... On a un peu restreint la période chronologique.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au départ, donc toi, tu avais chargé Emma de faire, qui était, je crois, stagiaire à l'époque, de faire ce travail un peu d'exploration, de savoir s'il y avait matière, ce qu'elle pouvait trouver, et elle est remontée carrément jusqu'à la Renaissance, hein, c'est ça?
Oui, mais alors là, comme vous êtes dans... Enfin, vous allez voir, en fait, on a ouvert le bal. Le bal, pas des vampires, mais des sorcières. Heureusement que l'exposition a eu lieu là, parce que là, en 2026, trois autres expositions en France vont avoir...
Vous avez lancé une tendance.
Il y en a une au château des Ducs de Bretagne, à Nantes, qui va ouvrir.
Oui, c'est vrai.
Très historique, de l'Antiquité à nos jours. Voilà, nous, c'était plus voir le moment du renversement, en fait, de la figure maléfique à une figure de femme puissante. C'était vraiment explorer ce moment de renversement et voir aussi, dans le 19e siècle, les prémices de la sorcière féministe telle qu'elle a été revalorisée à partir des années 60 en France, en Italie, aux États-Unis. Et en fait, ça part de Jules Michelet essentiellement. Enfin, ça part du romantisme, mais aussi d'un livre de Jules Michelet de 1862. Donc en fait, surtout ce qu'on a fait, c'est essayer de voir toutes les représentations à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, de personnes qu'on pouvait considérer comme étant des sorcières. Par exemple, l'image que vous voyez ici, c'est clairement une sorcière parce que les artistes jouent avec des codes qui sont clairs, qui sont pas, il y en a qui ne sont pas ambigus. Donc, quand on voit un chat noir, et une potion, c'est une sorcière, mais une sorcière, évidemment, au sens très large, là, au sens d'alchimiste, de savante, enfin voilà, c'est pas, mais forcément, il y a des jeux avec des symboles qui ont un sens.
Pour comprendre un petit peu mieux d'où nous vient cet imaginaire autour de la figure de la sorcière, il faut revenir en arrière dans l'histoire. Cet imaginaire, il prend racine au XIVe siècle déjà. Alors, il y avait des figures de sorcières avant, hein, on va pas remonter très très loin, mais en tout cas, auparavant, la sorcellerie est plutôt tolérée. On va dire que jeter des sorts, fabriquer des filtres d'amour, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme répréhensible, hein, au tout début du Moyen-Âge. Ce qui évolue au XIVe siècle, c'est le fait que des théologiens, en fait, commencent à penser que les démons et le diable sont présents parmi les humains et qu'ils entrent en contact avec sorciers et sorcières. Et dès le XVe apparaît l'imaginaire du sabbat, cette réunion nocturne avec le diable que l'on rejoint par les airs, justement, juché sur des balais et des bâtons, et où on se livrerait à l'assassinat d'enfants, à des orgies sexuelles. Et à ce moment-là, alors, la sorcellerie devient un pacte diaboliques ont des hérétiques qui la pratiquent et qui s'opposent du coup à l'Église, au pouvoir de Dieu et à celui du pape. Alors au 19e siècle, tu as commencé un petit peu à l'évoquer, notamment dans la première moitié du siècle, c'est l'ère des romantiques, et les artistes s'emparent un peu de cet imaginaire hérité du Moyen-Âge, qui est, je crois, une période qui les fascine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que le Moyen-Âge revient comme ça sur le devant de la scène? Et puis on va commencer à parler des œuvres juste après.
Il y a toute une exposition que j'ai pas encore vue, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler ou l'ont vu, gothique au Louvre Lens, qui explore cette question précisément. Donc c'est vraiment une vaste question, j'ai un peu du mal à... Alors juste une petite préambule pour dire que moi j'avais envoyé un PowerPoint avec 150 images, donc là il y en a beaucoup moins parce que vraiment moi je m'appuie beaucoup sur les images pour...
Alors on peut s'appuyer sur les images, suite avec celle-ci par exemple.
Oui, alors voilà, alors en fait le Moyen-Âge, enfin... c'est aussi un enjeu politique et les artistes et auteurs républicains aussi s'en servent pour dénoncer l'obscurantisme, le pouvoir religieux. C'est le cas de Jules Michelet, c'est le cas de Victor Hugo. Et donc la sorcière chez Victor Hugo, c'est la bohémienne. Enfin, il y a plusieurs figures de sorcières, mais il y a par exemple Esmeralda, donc c'est une des premières sorcières vraiment réhabilitées dans la littérature. Mais elle reste faible, donc c'est-à-dire qu'elle est la victime d'un pouvoir religieux hypocrite. Alors il y a aussi des figures masculines d'ailleurs de sorciers chez lui, comme dans Les Trahirs de la Mer. Enfin bon voilà. Mais donc sa sorcière Esmeralda reste assez faible. Elle n'a pas les moyens de devenir la femme puissante qu'on verra après. Donc il y a aussi des images d'Esmeralda dans l'exposition. Mais Victor Hugo apparaît aussi à travers des dessins où il dénonce les procès faits aux sorcières. Donc les sorcières, le Moyen-Âge, c'est aussi un moyen de dénoncer la peine de mort pour des romantiques comme Victor Hugo, c'est-à-dire de montrer... des scènes de torture, des bourreaux, des accusés, pour dénoncer des pratiques et condamner en fait cette peine de mort. Et c'est aussi un répertoire pour l'imaginaire, avec tout un des monstres, des gargouilles. L'architecture inspire énormément les artistes.
Ouais, on pense aux cathédrales.
Voilà, les cathédrales, qui, même si le livre remplace la cathédrale pour Victor Hugo. Et du coup, Victor Hugo inspire lui-même d'autres artistes, comme Louis Boulanger, qui a illustré un poème d'Odes et Ballades.
Donc là, on est en train de visualiser, je rappelle, parce qu'on aura des auditeurs. Du coup, c'est une œuvre de Louis Boulanger qui s'appelle La Ronde du Sabbat, et qu'on date autour de 1861.
Oui, en fait, ce qu'on trouvait intéressant dans cette œuvre, c'est que Louis Boulanger a illustré le poème de Victor Hugo en 1828 avec une lithographie, qui était un art très nouveau à l'époque, qui pouvait s'imprimer en un grand nombre d'exemplaires et qui permettait vraiment de diffuser les images, donc en plein romantisme. Et plusieurs années après, alors que le romantisme n'est plus à la mode, il expose au salon un tableau sur le même thème, à peu près à la même époque que la publication de La sorcière de Michelet. Donc c'est aussi une période vraiment où l'Église a beaucoup moins de poids. Donc Satan, Lucifer, deviennent des figures propices au fait à créer des monstres, à mettre en scène des images frénétiques, des tourbillons.
Ce qu'on voyait là, donc c'est cette espèce de ronde incroyable, grouillante de monde. Qu'est-ce que ça évoque pour les artistes, cette image du sabbat?
Alors, les artistes s'inspirent beaucoup de textes, et notamment de Faust, qui est donc une ancienne légende allemande qui est reprise par Goethe au début du 19e siècle, qui est reprise également par Gérard de Nerval dans les années 1820, et c'est cette version que Delacroix illustre, qui a beaucoup de succès. Ça inspire le théâtre, la musique, et dans Faust, il y a notamment une scène, la nuit de Walpurgis, où les femmes dansent de manière frénétique sur une montagne, battue par les vents. C'est vraiment une description synesthésique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'odeur d'un festin, les rires, le vent. Donc c'est pas uniquement visuel. La nuit du sabbat, c'est quelque chose qui convoque tous les sens.
Peut-être aussi à partir de ce Moyen-Âge, de ce 15e siècle, on a l'Inquisition qui s'empare part vraiment de cette figure aussi, de cette imaginaire, mais qui finalement est encore à l'époque extrêmement réelle. Hein. Il y a cette croyance, en tout cas, qu'il y a vraiment des personnes qui dialoguent avec le diable finalement, et puis qui perpétuent des méfaits diaboliques la nuit. On le voit aussi dans cette image-là. Cette image-là, elle est de Gustave Doré. Elle s'appelle La Sorcière. Elle date de 1853. Et en fait, à ce moment-là, au XVe siècle, il y a le fait que l'Inquisition s'empare de cette image de la sorcière. Il y a des chasses aux sorcières. Les personnes sont poursuivies, sont torturées, sont condamnées au bûcher. Et à un moment, vous en parlez d'ailleurs dans l'exposition, il y a la publication d'un traité qui s'appelle le Maleus Maleficarum, qui est dit marteau des sorcières de l'inquisiteur dominicain Henri Institoris. Et c'est lui, en fait, qui fait pour la première fois de la sorcellerie une pratique vraiment féminine. Finalement, c'est lui qui fait naître ce mythe-là de la sorcière. Et je trouve que Gustave Doré, cette image-là, en tout cas, m'évoque cette image stéréotypée, peut-être, de la sorcière au nez crochu dont on parlait tout à l'heure.
Alors, le Maleus Maleficarum, c'est vraiment un bréviaire pour identifier les sorcières et les pourchassées. C'est un livre terrifiant qui est un véritable best-seller quand il est paru à Strasbourg.
À l'époque, hein, c'était les débuts de l'imprimerie et il a été très largement diffusé par volonté de l'Église, finalement.
Oui, et c'est effectivement un livre qui, dans son titre, féminise de manière catégorique. Jusque-là, c'était sorcier et sorcière. C'était pas la sorcière n'est pas forcément la femme. Alors c'est vrai qu'au XIXe siècle, la sorcière, c'est vraiment la fiancée de Satan et la fille d'Ève. C'est vraiment la femme. Il y a des figures de sorciers, mais très très rarement, enfin beaucoup moins inspirantes.
Cette sorcière que l'on voit là, qu'est-ce qu'elle a comme attribut?
Alors on ne sait pas. On est très heureux. Enfin, je suis très contente de pouvoir vous la montrer parce que c'est une œuvre qui était dans une collection privée et elle est passée en vente et on a pu l'acquérir in extremis pour pouvoir la présenter au public. Alors on ne sait pas trop à quoi elle se rattache. Peut-être qu'elle se rattache au très grand projet de Gustave Doré d'illustrer tout Shakespeare. Donc Shakespeare est vraiment un auteur qui inspire énormément les artistes au XIXe siècle. Mais au XIXe siècle, ce que les artistes retiennent de Shakespeare, ce sont les sorcières, vraiment. C'est les sorcières de Macbeth, principalement. Ah oui. Donc peut-être il y a un lien, mais pas forcément. On peut penser aussi aux sorcières des contes. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette image, c'est que c'est pas un très grand dessin, mais il est assez monumental dans son cadrage. C'est qu'en fait, l'artiste reprend la composition des saintes avec les allégories, les attributs de leurs martyrs en pied, comme ça. Qui occupe vraiment tout l'espace. Et là, la tribu de cette sainte à l'envers, c'est le balai. Vous voyez qu'elle dresse vraiment avec force comme une arme. Et puis ses cheveux se mêlent à sa peau, à son corps. Il y a aussi cette animalité de la sorcière, cet être hybride.
Oui, on voit un sabot là qui dépasse.
Qui a son sabot qui dépasse et puis son vêtement comme une peau de bête, encore un peu comme un Saint Jean Baptiste. Inversé, enfin, et elle a deux animaux gigantesques, monstrueux à ses pieds qui peuplent les terreurs, les phobies,
qui sont
associés au masculin et au féminin, donc le ver et l'araignée. Donc elle réunit aussi le masculin, le féminin dans cette nuit, quand même constellée d'étoiles, donc c'est. Voilà, tout n'est pas noir ou blanc. Et l'artiste inverse aussi les valeurs en jouant avec les contrastes de noir et de blanc.
Donc là, il y a quand même...
C'est vraiment la sorcière terrifiante. En même temps, ça révèle aussi une conception qu'on analyse dans l'exposition, que cette conception très centrée sur les âges de la vie des femmes. Et la vieillesse féminine, en fait, il y a quelques images positives, comme Sainte Anne, mais souvent, dans l'iconographie, c'est vraiment une personne qui n'est plus sexuée, qui est barbue, qui perd toute féminité. Qui est effrayante et c'est lié à une forme de réalité parce que les femmes plus âgées ont un savoir donc sont plus puissantes. Elle ressemble aussi à l'allégorie de l'envie en fait, qui est les sorcières dans l'histoire ont souvent des personnes qui ont été accusées, des personnes âgées qui ont été accusées de sorcellerie, soi-disant parce qu'elles étaient envieuses. des femmes en âge de procréer, et on les accusait, enfin c'est une réalité apparemment, enfin d'après des historiens de la sorcellerie. Donc elle recoupe, enfin on voit vraiment la grande culture visuelle de Gustave Doré et en même temps cette image si forte, ouais. Qui est vraiment qui.
Oui, et puis qui définit un archétype aussi qui a suivi des siècles et des siècles finalement, qui arrive jusqu'à nous. Théophile Alexandre Stellen, c'est comme ça qu'on prononce.
Merci d'avoir choisi Stellen.
Super, Stellen, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'on voit sur ce dessin qui s'appelle Métamorphose et qui date de 1893?
Alors c'est un peu aussi grâce à Stellen en fait que le projet Sorcière s'est fait, parce que Stellen était obsédé. C'était un grand amoureux des chats. Il adorait les chats. Il nourrissait tous les chats errants qui croisait. Il en a fait son emblème, son monogramme, c'est un chat. Enfin voilà. Alors. Donc en travaillant sur Stellen, on croise beaucoup de chats noirs. Et bien sûr, dans la tradition, le chat est l'animal de la sorcière parce qu'il voit la nuit, parce qu'il a une sexualité débridée. Parce que c'est un animal domestique aussi, dévoyé. Le chat, c'est l'animal du foyer qui n'a pas peur du feu et qui est associé aussi aux femmes, enfin, parce qu'il est dans la cuisine. Donc il y a tous ces éléments et le chat est vraiment le fil conducteur de nombreuses conventions sorcières. Mais là, vous voyez qu'il y a vraiment une association entre la sorcière aux cheveux noirs lâchés et à la sexualité débridée et les chats qui sont presque. C'est presque son. C'est à la fois, elle fait presque un concert accompagné de l'orchestre de chats, et à la fois les chats, c'est l'avatar de la femme.
Et là, on peut imaginer ces sorcières là partant nues sur leur balai, accompagnées par les chants de leurs chats, directement au sabbat. Enfin, il y a vraiment cet imaginaire aussi qui est convoqué là.
Quoi. Et avec de l'humour, évidemment, parce que c'était un journal qui voulait amuser ses lecteurs. Et toujours quand même cette vision, même si Stellen n'était pas du tout le plus misogyne de tous, cette vision quand même un peu...
Discutable. En lien avec cette histoire là qu'on racontait un petit peu sur le Moyen-Âge et sur les procès en sorcellerie, on a une image bien sûr qui vient aussi, c'est celle du bûcher, qui est un thème récurrent là aussi hein, dans à la fois dans l'imaginaire mais aussi dans l'iconographie. Vous dites dans l'exposition que 80% des victimes des procès en sorcellerie sont des femmes et qu'on estime qu'environ 60 à 80 000 personnes furent condamnées pour sorcellerie entre le 15e et le 18e siècle en France. Et du coup, au 19e siècle, là aussi, des artistes s'emparent de cette image des procès en sorcellerie et du bûcher. La plus célèbre des femmes ayant été condamnée au bûcher restant sans doute Jeanne d'Arc. Hein, là, je vous affiche ici... quand même, il faut préciser hein, que Jeanne d'Arc, elle est réhabilitée et sanctifiée au cours de la Troisième République. Donc, exactement pendant cette période-ci.
Mais l'exposition, en fait... Je voulais un fil conducteur, et là ça a été le feu, et donc l'exposition suit ce fil du feu. En fait, l'artiste Eugène Grasset a participé à un concours pour les vitraux de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, pour la nef, les fenêtres de la nef. Il n'a pas réussi, enfin c'est pas lui qui l'a emporté, mais bon, il a réalisé ses grands projets. En même temps, il y a aussi des décors dans plusieurs monuments publics sur Jeanne d'Arc. Donc lui, vous la voyez au centre, dans les flammes. Alors les sorcières, justement, enfin, parfois elles avaient la chance de pouvoir être, si on peut le dire, étranglées ou tuées avant d'être
sur le bûcher. Ouais.
Mais leur corps devait être réduit en cendres pour vraiment que le mal soit complètement dissous et pour une forme de purification et de destruction complète.
Et là, effectivement, elle est cette figure centrale là, au milieu de ce dessin au crayon. Cette vision là, stéréotypée de la sorcière au nez crochu sur son balai, elle est parvenue jusqu'à nous. Mais au fil des siècles, l'imaginaire, tu le disais tout à l'heure, a évolué et différentes représentations des sorcières apparaissent, s'entremêlent, coexistent. C'est particulièrement le cas à partir du 19e siècle. Et cette figure de la vieille femme laide, effrayante, c'est finalement loin d'être la seule forme qu'on retrouve tout au long de l'exposition et puis tout au long monde de finalement.
Jeanne d'Arc, c'est un peu différent. C'était vraiment pour parler en intro, enfin vraiment parler des vraies femmes qui avaient vécu en fait cette sorcellerie.
Oui, donc, c'est une réalité donc, voilà, qui s'est passée. Oui.
Elle, c'est un peu différent, je pense, de l'archétype de la femme fatale.
Oui, bien sûr. Là,
de là, c'est vraiment une des rares figures historiques, pas du tout représentatives évidemment des femmes qui ont été condamnées comme sorcières, mais c'était important de commencer l'exposition en évoquant ces bûchers. Oui. Et ensuite, le fil conducteur, donc, c'est les feux de la nuit, le feu au corps et le feu du savoir. Parce qu'en plus, c'est assez drôle de ça. C'est à l'époque, au fait, que naît le terme allumeuse fatale, avec Huysmans, en fait, qu'il emploie dans son livre Là-bas, qui est un livre où il parle de l'ésotérisme et de toutes les sciences occultes à la fin du 19e siècle, un siècle très matérialiste et, mais en même temps complètement hanté par tout ce qui est ésotérique. Donc il invente ce terme allumeuse fatale avec une personne qui s'appelle Hyacinthe Chantelouve, donc rien que le nom est vraiment tout un programme, qui est vraiment une femme fatale, qui est mangeuse d'hommes, et on voit cette image qui envahit les arts, voilà, donc le feu voilà, traverse tout le... pas uniquement à travers les images de torture...
Les auteurs et les artistes participent à faire évoluer donc cette image dans l'imaginaire collectif. Et sur ce point, tu fais référence notamment à l'essai La Sorcière, hein, dont tu parlais tout à l'heure, de cet historien Jules Michelet, qui a été publié en 1862 à Paris et qui présente, lui, une vision finalement plus romantique et presque positive, hein, de la sorcière, qu'il associe à la nature et au désir féminin. Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment-là? Est-ce que c'est le début de la réhabilitation, en quelque sorte, de l'image de la sorcière?
Alors, en fait, c'est plus vraiment considéré comme un livre d'histoire, en fait. Parce qu'il se plaint d'erreurs. C'est littéraire, finalement.
Oui, et puis il y a une partie fiction, hein, je crois, dans ce livre aussi. Enfin, il y a même un mélange des genres, on va dire.
Bah, c'est-à-dire que c'est un livre qui rend la sorcière politique aussi, comme chef de file, enfin qui l'ancre dans une société et un peu la chef de file d'une forme de contre-pouvoir, et qui revêt, il en fait une espèce de figure mythique qui traverse les âges et qui, selon les moments, a différents aspects, en fait, différents âges, peut être à la fois terrifiante et à la fois bénéfique, qui connaît les secrets des plantes aussi, qui développe une médecine... une médecine alternative et qui n'oppose pas le savoir et le corps, qui n'oppose pas l'esprit et le corps et qui part du corps en fait pour construire le savoir. Donc c'est aussi une vision très moderne. Et donc c'est voilà, et le livre en fait, enfin on en parle avec Cérusier parce que
on va revenir hein, sur l'image de la sorcière savante, mais là est-ce que tu veux bien commenter celle-ci qui s'appelle donc c'est une huile sur toile de Waterhouse qui s'appelle le cercle magique.
Donc c'est un artiste académique qui faisait partie de la Royal Academy, qui avait beaucoup de succès, qui exposait régulièrement et donc qui a exposé ce tableau, qui est d'ailleurs la preuve de son succès, était qu'il a donné lieu à une caricature, vous voyez, de Sarah Bernhardt. Donc elle a un côté très théâtral, cette peinture, c'est pour ça que je parle de Sarah Bernhardt, c'est vrai qu'il y a presque un espace scénique avec un décor. Alors déjà, il y a plusieurs inspirations, il mélange plein d'époques, il a des aspects antiques, vous voyez, grecs, avec cette figure grecque au premier plan. Elle a une fossile druidique, alors je ne vois pas très bien, je vais peut-être prendre l'image.
Oui, c'est ça, elle a une sorte de fossile dans la main gauche.
Elle a aussi un côté mésopotamien, enfin voilà, disons qu'il y a vraiment un syncrétisme culturel. Et on ne voit pas trop le côté, d'ailleurs, des références chrétiennes, c'est beaucoup moins visible. Et là, c'est assez paradoxal, parce que vous voyez, c'est une sorcière plutôt bénéfique, puisqu'elle crée un cercle pour faire reculer les forces du mal qui pourraient être symbolisées par les corbeaux. Donc le crâne, les corbeaux sont à l'arrière et elle est plutôt avec des plantes.
Oui, comme si elle protégeait finalement l'espace.
Elle a son bouquet de fleurs. On a l'impression que c'est plutôt une savante qui va mettre au point des potions pour conjurer les mauvais sorts plutôt que quelqu'un qui va lancer des mauvais sorts. Et vous voyez le petit crapaud au premier plan aussi, tous ces animaux un peu associés à l'informe, au répugnant.
Donc là, elle éloigne plutôt les forces du mal plutôt que de les convoquer. Oui, quoi. Là, plutôt, on est vraiment sur un basculement de la représentation,
et puis,
justement.
Et le côté un peu mystérieux du tableau fait, enfin, et à l'image de, des savoirs mystérieux qu'elle semble détenir.
Là, on a une œuvre d'Antoine Bourdel, pardon, qui sculpte un marteau de porte en tête de méduse en 1925. Et là, on utilise effectivement ce mythe-là de méduse. Y a aussi des représentations autour des sirènes. Il y a vraiment ce truc de la sorcière maléfique qui va venir essayer de séduire ou de carrément, dans le cas de méduse, plutôt de pétrifier en fait les mortels qui osent la regarder.
Oui, donc Méduse, on peut considérer que c'est une sorcière, puisqu'elle a ce pouvoir de pétrification, qui est d'ailleurs un pouvoir qu'aura une des sœurs Halliwell dans Charmed.
Et, référence plus récente.
Alors un autre aspect qu'elle a de la sorcière, Méduse, c'est que c'est, selon les versions, mais selon la version d'Ovid, c'est que c'est une victime. Comment dire ? C'est la victime qui est punie, c'est-à-dire qu'elle a été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna, et Athéna, du coup, se venge, non pas de Poséidon, mais d'elle, de Méduse, et donc la transforme sa magnifique chevelure en une horrible, effroyable chevelure de serpent, donc selon les versions. Et là, en fait, c'est assez original, puisque c'est Bourdel fait ça pour une maison, la Maison Fontaine, qui était une entreprise de serrurerie d'art, à une époque où les l'électricité donc était développée, donc les gens avaient des sonnettes, donc c'est vraiment un attribut,
ornement,
voilà, un ornement et un signe de prestige et de référence à l'antique, qui est très ambivalent. En fait, la personne qui frappe à la porte se met à la place de Thésée. C'est comme si il prenait lui la chevelure de la donc Thésée, ah, qui a tué la Méduse, comme si lui-même la tenait par ses cheveux. En même temps, elle avait une vertu, elle protégeait contre le mauvais sort la tête de Méduse. Une fois qu'elle a été tuée et qu'elle a été mise sur le bouclier d'Athéna, c'est vraiment devenu un symbole de protection contre le mauvais sort. Donc là, elle conjure aussi la personne qui habite la maison de mauvais sort. Et elle est très ambiguë, celle-là, vraiment, parce qu'elle a les yeux clos. D'habitude, Méduse, justement, son pouvoir vient de ses yeux, qui regarde et qui hypnotise. Et là, elle ressemble presque à une noyée. Voilà, il y a une. Voilà, là on s'éloigne un peu des sorcières, mais peut-être on pourrait la mettre en rapport avec un masque mortuaire d'une femme dite l'inconnue de la scène, qui a beaucoup inspiré les artistes à cette époque.
Il y a cette image de la femme à l'époque qui est. Il n'y a pas trop de choix, en fait. Soit on est prostituée, soit on est associée à la mère, à la Vierge. Voilà. Du coup, il y a vraiment ces représentations-là qui sont ensuite proposées par notamment Félicien Rops, dont là, on voit une première œuvre. Et puis, peut-être qu'on peut commenter surtout cette deuxième œuvre. Elle s'appelle Pornocrates.
Ah oui,
je me suis dit que Pornocrates, c'était moi qui faisais l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà, peut-être ? Qu'est-ce qu'on voit ?
Elle n'avait jamais été exposée dans ce contexte, mais en travaillant sur les sorcières, évidemment, il y en a une qui est vraiment très connue de tous, c'est Circé. Et donc, cette compagne d'Ulysse qui transforme. Cette magicienne, en fait, qui doit recevoir sur son île les compagnons d'Ulysse, qui abusent d'elle, qui sont mal polis, qui sont vraiment très pénibles, et elle les transforme en porc. pour avoir la paix.
Et donc là, on voit une femme.
Voilà, quand on voit une femme avec un cochon, c'est vrai que je pense
avec un cochon en laisse, une femme nue, avec des porte-jartelles.
En fait, donc il y a plusieurs interprétations. Donc déjà, elle n'est pas nue, elle est dénudée. Donc déjà, dénudée, ça, c'est toute la différence. Vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas une déesse, mais c'est vraiment une prostituée. Elle a vraiment, en plus, elle est dans des habits contemporains. Donc c'est vraiment. Une prostituée contemporaine qui tourne en dérision toutes les symboles et les allégories de l'art ancien. Vous voyez, elle piétine avec ses talons et avec le cochon qu'elle tient en laisse tous les arts, la peinture, la poésie, la musique et la sculpture qui sont écrabouillés par ses talons. Elle est aveugle aussi, donc aveuglée par ses désirs, guidée par ses désirs. Ou aussi dominant l'homme réduit à n'être qu'un cochon. Enfin, voilà. C'était un artiste qui avait énormément de succès à l'époque, qui a illustré beaucoup d'auteurs fin de siècle et qui était un des mieux payés, en fait. Il était belge et il est venu vivre à Paris. C'était un des mieux payés à Paris. Et beaucoup de succès, oui, avec ses images un peu grivoises mais toujours qui font allusion à la mythologie. Enfin voilà, c'est, ils ne sombrent pas dans le. Enfin, y a quand même toujours une originalité et une qualité plastique que n'ont pas forcément tous les artistes qui ont créé, qui ont travaillé sur ce sujet.
Et là, si on continue sur cette image de la femme fatale, on peut regarder cette œuvre-là aussi, oui. Du coup, de Gustave Adolphe Mossa, qui s'appelle Elle.
Oui, c'est un artiste niçois, lui, il a vécu très longtemps, c'est pendant une brève période de sa vie, autour de 1900, qu'il a vraiment été hanté par les femmes fatales, et il a créé des images particulièrement fortes, et aussi violentes, quand même, de femmes souvent repliées, comme ça, accroupies, ouais, les dans une posture assez animale, hein, vers la terre, vers le monceau de cadavres masculins. Et petit détail qui fait que c'est vraiment aussi une forme de sorcière, c'est le petit chat, vous voyez, bien astucieusement situé, comme dirait. Voilà.
Sur son bas-ventre.
Donc là, c'est l'ogresse, mais c'est vraiment l'ogresse version, non pas la vieille ogresse des contes, mais l'ogresse version 1900, quoi. C'est-à-dire l'ogresse qui, justement, prend des allures très attirantes pour mieux capter ses victimes.
Ouais, séduire ses victimes.
Mais en même temps, très animal. Ouais, des yeux qui n'ont aucune expression.
Une femme surdimensionnée qui est assise, finalement, très lascivement sur un monceau d'hommes qu'elle vient de saigner, on va dire, presque. On voit du
sang
un peu.
Elle
est carnivore, ouais, c'est ça. Et ce qu'elle mange, c'est des hommes, visiblement. Du coup, parce que là, on a donc eu cette image de la vieille femme au nez crochu. On a ensuite cette femme fatale et maléfique. Et puis ensuite, on transitionne, tu le disais, par rapport à cette figure, vers cette figure-là de Michelet. Dans l'exposition aussi, j'ai envie de citer Georges Sand. Vous parlez, vous avez une citation qui dit dans la campagne, on n'est jamais savant sans être quelque peu sorcier. Elle dit ça dans la petite Fadette. Et là aussi, je pense que entre Hugo, elle, Michelet, il y a vraiment tout un chemin finalement qui pave la voie à cette réhabilitation de la figure de la sorcière vers cette femme savante qui récupère aussi de la puissance, qui est très connectée à la nature.
On a cherché désespérément des œuvres faites liées à cette réalité et à cette vision qui était conforme à une forme de réalité dans les campagnes, d'artistes engagés, quand même très engagés pour la justice, très républicains. Mais en fait, on n'en a pas trouvé, très peu.
Pas beaucoup,
en fait,
oui, c'est ça.
Vraiment aux marges. Ce qui inspire les artistes, c'est plutôt une vision de savante, mais vous voyez vraiment l'inverse de la paysanne qui connaît le secret des plantes.
Ouais, là, on est très loin de la paysanne. On est donc sur cette toile-là.
Voilà, on a plutôt cette vision.
Elle s'appelle La potion d'amour, donc d'Evelyne de Morgan.
Voilà, donc en fait, d'Evelyne de Morgan, qui était une artiste pré-raphaélite, très intéressée par les
obélisques. Britannique,
oui. Britannique, dont la belle-mère était spirite, enfin pratiquait le spiritisme, et pour nous c'était vraiment important de choisir ce visuel en fait pour comme visuel de l'exposition.
Ouais, parce que c'est le visuel de l'affiche de l'exposition.
Ça a été créé par une femme déjà. Or pour ce sujet qui traite de désir, de violence, finalement il y a très peu de femmes qui ont peint des sorcières, donc c'est important. Et puis vous voyez, c'est une version très positive de la sorcière, même si elle reste ambivalente et voilà, elle n'est pas dépourvue d'un peu de maléfice, mais c'est une vision alors donc très éloignée de la réalité des sorcières, mais on pourrait voir une forme de Saint Jérôme au féminin, toutes ces peintures de la Renaissance qui montrent Saint Jérôme dans son studio, dans son cabinet d'études, avec un lion à ses côtés. Donc là c'est un peu la même version, mais elle a le chat noir,
avec le chat noir,
le fameux chat noir,
la potion, et puis la présence quand même de tous ces livres aussi, et alors, qui sont des livres humanistes,
oui, alors
on le voit pas forcément là de loin,
on voit Paracels, Agrippa von Nettesheim et Jean Blick, donc des alchimistes, dans sa bibliothèque. Donc c'est une femme qui pratique l'alchimie, qui était une science réservée aux hommes, et qui par cette pratique acquiert une forme de puissance. Alors il y aurait peut-être un code, je l'ai noté parce que je ne connaissais pas par cœur, un code alchimique aussi dans le choix des couleurs, avec une évolution du noir, couleur de la mort, du péché, dans la tradition alchimique, en passant par le blanc, début de la purification, le rouge, la force et le courage, jusqu'au jaune d'or, qui est vraiment la couleur vers le salut. Enfin, c'était un artiste qui s'intéressait beaucoup au symbolique. Voilà. Alors, on peut voir aussi peut-être une référence à Tristan et Iseut derrière.
À l'arrière, on voit un couple, pas, effectivement, un couple. Qui s'enlace.
Ouais. Alors, est-ce que le filtre, comme l'indique le titre,
le filtre d'amour leur est destiné,
mais est-ce que c'est un filtre funeste? Enfin, il y a quand même, vu que dans l'alignement, oui, on a vrai. Le couple, la potion qui est rouge en couleur sang, et le chat noir avec ses yeux qui semble voir vers un avenir funeste. Enfin, et qui est, voilà, le chat noir, c'est quand même tout un symbole. Voilà, elle peut quand même lancer un sort qui n'est pas si anodin.
Et pour poursuivre un petit peu dans cette vision peut-être plus positive en fait des sorcières et notamment ce lien avec la nature, on peut commenter peut-être cette peinture aussi de Paul Sérusier, donc qui s'appelle L'Incantation ou Le Bois Sacré. Donc il y a les deux noms.
Ça c'est un tableau aussi assez intéressant dans un cheminement qui pourrait commencer des trois sorcières effrayantes de Macbeth, où toujours les sorcières sont souvent par trois. On parlait de Méduse, elle est l'une des trois sœurs. Et puis il y a aussi ce détournement dans la culture chrétienne de la Trinité. Enfin, c'est la triade infernale. Et là, on a trois figures encore, mais c'est plutôt une triade là très positive. Et elle cultive ce feu, donc au creux de la forêt, en harmonie totale avec les troncs rouges. C'est la forêt, alors je pense peut-être un Delgoat en Bretagne, où Sérusier aimait se rendre. Et c'est assez intéressant pour finir. C'est le tableau qui a été choisi en couverture du livre Michelet, la pensée sorcière, écrit par Paul Petitier, qui est écrit dans le catalogue et qui est en fait un livre qui est sorti en même temps que la préparation de l'exposition et qui montre en fait comment le 19e siècle et la fin du 19e siècle, la pensée de Michelet sont à l'origine de la vision qu'on a aujourd'hui d'une sorcière presque écoféministe, qui puissante et en harmonie avec le monde dans lequel elle vit.
Eh ben, on va continuer à parler de cette sorcière puissante, Colleen Linder. Je vais te proposer de venir nous rejoindre. Je vois le temps qui tourne, évidemment, j'ai encore plein de questions. On va y arriver. Je sais que tu dois partir à l'heure, donc on va faire en sorte. Cette réhabilitation de la figure de la sorcière, elle se poursuit tout au long du XXe siècle à travers les travaux féministes, hein, on le disait tout à l'heure. Colleen, est-ce que toi, par exemple, quand on te parle de sorcière, c'est cette femme savante et puissante qui te vient à l'esprit en premier ?
Bonsoir. Oui, en tout cas, il y a cette notion-là du savoir et de la transmission et de comment de toute cette mythologie autour de l'alchimie, de la compréhension de la nature, de la compréhension de l'autre. Oui, c'est plutôt quand même quelque chose de lumineux, en tout cas.
Toi, tu es musicienne. Peut-être que les gens ici te connaissent en tant que musicienne, mais tu es aussi plasticienne. Et tu as une pratique. On va s'intéresser à cette pratique-là parce que là, ça fait vraiment bien le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure. On peut regarder tout de suite deux de tes compositions que l'on voit là juste au-dessus. Alors, je vais montrer les deux. Et puis, je sais pas si tu veux peut-être aussi nous expliquer. Là, pour nous, moi en tout cas, pour peut-être beaucoup d'autres personnes, il y a une parenté avec cette figure de la sorcière. Est-ce que c'est une inspiration comment tu décrirais ces œuvres-là et puis peut-être ce qui t'a traversé au moment de les réaliser ?
Alors déjà, moi, quand je dessine ou quand je peins, je projette pas forcément quelque chose. C'est un peu comme quand j'écris de la poésie ou c'est des choses qui... J'ai la sensation qui me traverse. Et c'est assez drôle parce que là, mon fils fait des études d'histoire de l'art et du coup, il se met... Moi, j'ai pas fait d'études, donc j'ai une autre façon d'entrer dans la matière. Et donc, des fois, il me raconte... Mais comme là, tu pouvais raconter les tableaux et c'est magnifique comment on rentre à l'intérieur d'une image. Et moi, j'ai pas ce chemin-là avant de fabriquer quelque chose. C'est comme si j'étais dans une sorte de petite transe ou de... Je suis avec la couleur ou avec le minuscule. Ce qui est en blanc, c'est à la plume et c'est vraiment tout tout petit, en fait. Donc il y a comme rentrer dans une matière et dans une forme d'incantation et je laisse souvent les tâches partir et être surprise, en fait, par ce qui va se passer. Et c'est drôle, je peux pas expliquer en fait, je crois. Et à la fois, je crois que j'ai pas forcément envie moi d'expliquer.
C'est pas grave.
Et ce que j'aime bien même dans la poésie, la musique ou la peinture ou le jardinage ou la cuisine, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que toi tu vois en fait. Je crois.
Et ben c'est bien parce qu'effectivement tes œuvres elles sont à voir finalement. elles sont à voir. Donc là tu dis que l'important finalement c'est que les gens reçoivent tes œuvres. Mmh. Alors ça me fait une parfaite transition pour dire que tu as actuellement une exposition à Angers dans un bar à vin qui s'appelle À boire et à manger qui se trouve place de la Visitation. Avis aux personnes qui sont ici. Et tu exposes avec Mélanie Bunel ton binôme de plasticienne qui s'appelle Les Juxtaposeuses.
Les Juxtaposeuses. Et voilà. Justement, et là
on s'affiche du coup une des œuvres. Et puis il y a celle-ci aussi, par exemple. Ce sont des exemples.
Et là, c'est vraiment un travail à quatre mains. C'est pas... c'est vraiment... On est en travail d'atelier ensemble. Et ça fait plein d'échos à ce que tu racontais, Laila, sur ce partage et ces endroits de transmission. Et aussi, j'ai pensé à une autre chose quand tu parlais, c'est Mélanie, elle m'apprend énormément. On se transmet beaucoup de choses, on a des façons de travailler très différentes. Et c'est ça qui est assez beau, c'est comment on partage un endroit d'intimité, parce que c'est très intime cet endroit de la création, de la fabrication, et comment on s'accorde à être au service d'un tableau ou d'une idée poétique. Et de pas être l'une plus que l'autre. Et moi, par exemple, elle m'apprend beaucoup ce mélange des cols, des liants, tout ce savoir-faire-là, qui est un savoir-faire alchimique, quelque part. Enfin, si on rapporte ça, c'est du mélange. Et voilà, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure.
Leïla, tu peux reprendre le micro. Dans l'exposition, vous avez choisi d'insérer un certain nombre en fait d'œuvres du XXe siècle qui sortent
du XXIe.
Du XXe et du XXIe.
Oui.
Ouais, c'est ça. Plus tardive.
Mais en fait, on pouvait pas parce que en fait, c'est pour ça que c'est la figure de la sorcière. Parce qu'en fait, si jamais c'est la sorcière, c'est toute la création en fait. C'est les mélanges, c'est les... Voilà, donc là, ça devient... C'est énorme, mais...
Et du coup, vous avez...
On a mis quelques artistes des années même 2020, en fait, qui avaient explicitement des œuvres... Enfin, ce sont des artistes qui ont fait des séries intitulées « Sorcières », ou qui ont vraiment revendiqué la sorcière comme quelque chose de très important dans leur travail, en fait. Parce que sinon, en fait, c'est sans fin, hein, c'est ce que tu dis. C'est... Donc oui, donc du coup, parmi elles, il y a Kiki Smith. Là, est-ce que c'est une artiste que je ne
connais pas?
Alors c'est une artiste qui a notamment fait des monuments en hommage aux sorcières. Un monument, alors excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la ville, mais elle a fait un monument dans une ville, je crois que c'est en Allemagne, en hommage aux victimes de la sorcellerie. Elle est aussi sculpte. Alors elle ne fait aucune hiérarchie entre les arts, donc elle pratique tout type d'art, enfin photo, installation, sculpture, enfin etc. Et pas de hiérarchie aussi entre les mondes. Pour elle, tout est lié. On est vraiment intriqué dans le monde, pas en spectateur, pas en... Donc il y a cette inversion aussi, là, un peu. On a l'impression que le ciel, c'est un sous-sol. Que les oiseaux sont des astres. Enfin voilà, tout dialogue, tout circule, et c'est aussi ça la sorcellerie en fait.
Ouais, c'est ça. Elle dit qu'il y a lien entre femmes, animaux, minéraux. Elle dit aussi que corps, esprit et âme s'entrecroisent. Elle fait vraiment tous ces liens là. C'est vraiment effectivement peut-être une forme de vision moderne de ce que serait la sorcellerie.
Puis on a choisi cette œuvre, mais elle a aussi beaucoup travaillé sur les rides. Elle travaille beaucoup sur son corps et son corps de femme âgée, mais belle, enfin, voilà, avec ses rides, qui deviennent des lignes, enfin, comme sur un arbre, comme sur un tronc. Enfin, il y a vraiment qui devient un paysage. Enfin, il y a vraiment aussi tout cet aspect. C'est vraiment tout son travail infusé par la sorcière.
Peut-être une dernière œuvre à commenter là sur qui est aussi elle dans la. Enfin, des œuvres, oui. D'ailleurs, là, qui sont aussi dans l'exposition.
Alors elle, c'est une artiste qui avait une monographie au musée de la chasse et de la nature, et où le commissaire de l'exposition à l'époque, Claude Dantenaise, qui a beaucoup valorisé les animaux dans l'art, et, l'avait appelée la sorcière bien-aimée. Et elle, c'est une céramiste qui pratique donc la céramique sous plein de formes. Là, c'est une œuvre qui s'appelle La Petite Sorcière, celle-là avec des cheveux qu'elle a inclus dans une céramique qui fait penser à un coquillage. Enfin, elle aussi, elle travaille beaucoup avec des empreintes aussi d'écailles, qu'elle reproduit en fait avec ses techniques à elle. Et c'est un peu à la lisière du. C'est un peu, ça peut être un peu laid. Enfin, je veux dire, c'est pas la beauté stéréotypée. C'est des choses un peu angoissantes, un peu mystérieuses. Elle fait aussi des récipients. Elle fait aussi beaucoup de choses liées à la cuisine. Donc voilà. Donc c'était aussi une artiste un peu sorcière. En
fait. Il y a plein de mélanges et de choses qui se font. Colline, quand tu parles tout à l'heure de ton processus de création, tu parles d'état de transe un petit peu. Alors j'aimerais bien qu'on en parle aussi parce que la transe, c'est quelque chose qu'on peut relier à cet univers. Des sorcières, de l'alchimie, enfin voilà, des potions, etc. Et toi, donc tu as plusieurs pratiques artistiques, hein. tu as la peinture, mais tu as aussi la musique, bien sûr, l'écriture. Tu t'es formée à différentes techniques hein, au fil des années, notamment à celle de la transe auto-induite. J'avais envie qu'on en parle parce qu'on en a discuté en préparant cette rencontre. C'est une technique qui est transmise par Corinne Sombrin, qui est une écrivaine voyageuse que vous connaissez peut-être, qui est spécialiste du chamanisme mongol. Il y a eu un film sur son travail. Et elle étudie et expérimente des phénomènes de transe avec une approche scientifique, en fait, neurologique, même avec des médecins, des chercheurs. Enfin, c'est tout un univers incroyable quand on s'y penche un petit peu. Cet état-là de transe, peut-être, comment tu nous le décrirais? Et puis, qu'est-ce que ça t'amène dans ton processus créatif? Si c'est trop dur de répondre, je remballe ma question.
Non, pas du tout. C'est toujours difficile de répondre parce que c'est très vaste en fait les réponses qui s'offrent à nous. Et pour moi, là, il y a vraiment cet endroit-là de tout est en lien en fait. Et quand tu me demandes par rapport à mon processus créatif, je te dirais en fait non, par rapport à mon quotidien ou à ma vie, mais et qui fait partie de tout. En fait, c'est vraiment intriqué et je crois que effectivement, moi, je crois fort à ça, que tout est en lien, en fait. En tout cas, cette aventure là de trans auto-induite avec Corinne Sombrin, elle a été très belle et puis elle continue à vivre. C'est vraiment un processus pour entrer en trans avec. À sa manière, en fait. Il n'y a pas de substance ou de. Enfin, tu prends pas de choses. Et toi, tu rentreras en transe autrement que moi. Et on reste toujours conscient. Et en fait, on a plein d'états de transe. Tout le monde en a, en fait, à plein de moments. Sauf qu'on ne sait pas forcément les identifier. Et donc, le travail de Corinne, ça va être aussi de t'amener à voir, à identifier ces endroits-là, pour que tu puisses y retourner. Quand on a besoin. Et c'est presque comme un outil qui existe, qui est là, qui est comme une énorme bibliothèque invisible à laquelle on aurait accès. Ou en tout cas, on peut avoir accès. Je dirais quelque chose comme ça.
Très bien. Ces temps de création-là, ils sont pour toi un peu... Tous, enfin, t'as l'air de dire en fait que tout effectivement devient dans ton quotidien. Finalement, l'inspiration, elle circule, elle arrive à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y a des processus un peu différents pour toi entre la musique et entre les arts plastiques, où c'est vraiment tout lié?
Je crois que souvent, moi je me suis, mais ça c'est après au fil des années où je me suis rendu compte de ça, que souvent la partie plus d'écriture poétique, elle était plus un côté sombre et dramatique, et que ma partie de travail de dessin et de peinture, elle était plus finalement quelque chose d'humoristique ou de qui avait de l'humour plus dans ma manière de dessiner, enfin que ça pouvait traduire autre chose. Et la musique, c'est là en fait. je crois que les choses, elles sont là, et puis de temps en temps, ça émerge, et il y a plus une envie d'aller vers de la couleur, ou vers des mots, ou... les choses entraînent... Je sais que très souvent, quand je dessine, par contre, j'ai des textes qui arrivent, que ça me, c'est comme si c'était des univers qui m'amènent à ouvrir d'autres cases de... vers une écriture, ou vers une chanson, ou vers une musique.
Et tu dis souvent aussi que tu es très attentive à tes rêves, en fait, ou aux signes, à des choses un peu de... comme si l'univers te parlait un petit peu. Je sais que tu as des rêves qui t'ont... aider à prendre des décisions qui t'ont aussi amené vers des choses. Je me souviens de ce rêve avec ta grand-mère.
Alors j'irai pas jusqu'à dire que l'univers me parle quand même. En tout cas, je pense que j'ai une sensibilité depuis que je suis petite à ça. Ça me fascine, les rêves, ça me fascine, et en tout cas tous ces endroits-là de mythologie, et d'invisible, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Donc j'y suis attentive. Et puis j'ai appris à... J'écrivais les rêves, il y a eu plein de phases. Et effectivement, bah après, il y a cette histoire-là, mais que je t'avais racontée, je crois, la dernière fois. Où, quand j'ai eu 14 ans, une nuit, j'ai fait un rêve où... ma grand-mère m'a emmenée dans sa maison, et elle m'a emmenée dans sa chambre. Elle ouvrait une grande armoire en bois, et l'armoire, elle semblait vide. Mais en fait, au fond de l'armoire, il y avait un cahier. Elle me le tendait. Alors je le prenais, j'ouvrais le cahier, et puis je lui disais, mais il est vide, il est vierge. Et là, ma grand-mère, elle me regardait, elle me disait, ouais, va falloir que tu te mettes au travail. Et voilà, et donc ça, c'est le rêve. Et le lendemain matin, donc je me réveille en me disant faut que j'appelle mamie Claire. Et puis j'ai appelé plusieurs fois, le téléphone a sonné dans le vide, et en fait c'est la nuit où elle est morte. Et je me suis mise à écrire de la poésie après ce rêve-là. Ça a été effectivement, j'ai pris au sérieux ce rêve.
Ce conseil ou cette...
Voilà.
Je me souviens que tu m'as raconté cette histoire du plancton qui était assez aussi incroyable, qui t'a...
Tu veux que je raconte toutes les histoires?
Ben non, mais je sais pas. Je trouve que c'est aussi des choses qui montrent un peu ce truc intangible de la vie. Voilà. Et je trouve que toi, tu es connectée à cet intangible de la vie.
Après,
et que c'est ton côté sorcière. Voilà. Je trouve que c'est un peu ça.
C'est toi qui le dis. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'elle est jolie quand même, cette histoire. En tout cas, il y a 3 ans, j'ai eu un moment donné où j'ai été très triste. J'étais pas très bien, voire même assez sombre. Et je suis partie au bord de la mer à Pénétin, à la plage de la Mine d'Or. Et j'étais avec un ami. Et puis on discutait. Et la nuit tombe. Et là, l'océan devient petit à petit vraiment de plus en plus calme et noir. Presque comme un lac. Ça faisait vraiment un lac. Il y avait juste une toute fine écume qui, au fur et à mesure, je regardais, et lui, il me parlait, enfin, on discutait, je voyais l'écume qui devenait presque fluo. Je me disais, bon, je délire. Et puis, au bout d'un moment, lui, il est marin, et c'était ça son métier. Et donc, il me dit, écoute, Coco, là, il faut qu'on vérifie un truc. Il rentre dans l'eau, je le suis, et en fait, c'était du plancton phosphorescent. Et moi, je ne savais pas que ça existait. Donc, j'ai eu, en plus de ce moment dingue, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, j'espère pour vous que vous le vivrez un jour, c'est comme si t'éclabousses et t'as des comètes au bout des doigts et tu marches et tes pieds, ils illuminent le sol. C'est un Miyazaki, t'es dans un... Et c'est fou, et je pense que j'ai dû passer 2 heures à jouer comme si j'avais 6 ans et demi dans le plancton.
C'est du plancton qui s'illumine à chaque fois qu'il y a du mouvement, ouais. En fait. Ouais. Et du coup, quand on parcourt l'eau, finalement, quand on bouge dans l'eau, il y a vraiment ces gerbes de... Enfin, c'est incroyable, effectivement.
Bah, c'est des comètes, quoi. Et donc, voilà, donc on passe ce moment-là qui était assez incroyable, parce que moi, j'allais pas hyper bien, donc d'un seul coup, c'était comme un genre de cadeau. Comme ça, dingue. Et puis le lendemain, je vais à Pénétin dans une librairie qui s'appelle le Bateau Livre, qui est une jolie librairie à Pénétin. Et je m'achète un cahier, puis je commence à écrire ce que j'avais vécu de manière assez poétique. Et à un moment donné, j'écris « Des lucioles marines m'ont livré un secret », et puis je fais deux points. Et là, il y a des phrases qui arrivent et... où pour moi, c'est vraiment le message du plancton. C'est pas moi qui ai écrit ça. et c'était comme si ça... Ouais, comme si ça arrivait de quelque part. Et le plancton, il a dit. Dans le calme aussi, tu peux trouver l'intensité. Le fabuleux se cache parfois sous des dentelles de tranquillité. Respire, regarde, ne cherche pas à faire.
C'est alors, une poète.
Non, ça, c'est le plancton.
Pardon, le plancton est un poète.
Mais en tout cas, moi, cette phrase-là, depuis, elle m'aide énormément. Dans cet endroit-là d'intense et de dire « Non, non, dans le calme aussi, tu peux trouver l'intensité.
» C'est joli. Elle est belle, cette histoire, quand même. Elle Mais mérite oui. d'être racontée. On va aller vers l'univers musical, justement. Là, l'écriture, c'est cet univers-là aussi pour toi. Il y a bien des artistes qui se sont inspirés de la figure de la sorcière, à la fois dans les looks, dans les attitudes, dans leurs chansons. Alors, on est un peu loin des grimoires et des chats noirs, mais cette figure de la sorcière, elle a été réutilisée depuis la deuxième vague du mouvement féministe dans les années 60-70. Et il y a plein d'artistes, en fait, qui s'en sont emparés. Il y a un livre que je vous invite d'ailleurs à aller voir qui s'appelle « Sorcière féministe ». Féminisme, magie et musique de Paula Ringer. Ah bah très drôle, il est là, voilà. C'est sorti en 2024 et donc elle y relate les destinées justement de cette artiste, de Yoko Ono à Anne Sylvestre, en passant par Kate Bush ou Lana Del Rey plus récemment. Et dans cet essai, elle expose comment en fait ces femmes, en affirmant leur liberté créative, elles se libèrent et elles se transforment à travers leur art, par les paroles qu'elles écrivent et par leur corps aussi qui s'exprime sur scène. Et dans une industrie musicale qui est encore patriarcale, je le dis tous les jours aujourd'hui, j'anime des tables rondes pour le L tous les jours et je le dis tous les jours, forcément bah il y a ces discriminations genrées, des violences sexistes et sexuelles, et du coup ce passage par la peau de la sorcière leur donne de la force, c'est ça ce qu'elle raconte dans ce livre. Toi Colline, durant ta carrière tu as eu plusieurs projets musicaux, dont le projet Titi Zaro avec la musicienne Oriane Lacaille, et je vous propose qu'on regarde un clip et vous me direz après si vous pensez pas que Colline s'inspire des sorcières.
Les Gorgones,
ça, c'est
mais oui, ça, en lien direct avec Gorgone Méduse,
ça s'appelle
c'est vraiment ça
les
ça
Gorgones,
vraiment...
exactement.
Méduses ancrées sur nos tignasses, serpents diadèmes nous entrelacent.
Je suis désolée, mais est-ce que vous voyez pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Je crois qu'il y a un petit peu d'inspiration. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu peut-être l'inspiration derrière ce clip-là ?
Eh ben, déjà, c'est un clip qu'on a fabriqué avec Flop Lefebvre du groupe Zur. On a travaillé beaucoup tous les deux à fabriquer la scéno de ce clip, qui est un magicien de la lumière qui travaille beaucoup sur les anamorphoses. Il a fait une exposition qui s'appelle Heureuse Lueur, qui est très très belle, où vraiment il travaille sur toutes ces transformations subtiles. Et c'est un homme d'une grande délicatesse, un sorcier, un genre de sorcier. Et avec Christophe Nizou qui a filmé et qui a réalisé le clip. Et puis après, c'est une chanson qu'on a fabriquée à quatre mains, vraiment avec Oriane. Et dans cette idée-là de, effectivement, de la mythologie et de toutes ces figures-là qui pouvaient être associées aux maléfices et qui finalement aussi porte bonheur, en fait, en fonction. Tu vois, Gorgone, tu l'as dit tout à l'heure, c'est, il y a le côté
oui, mais du sort. Qui pétrifie, mais qui aussi...
Mais elle porte aussi elle bonheur, en fait. Mmh. Et voilà, c'est toujours comment, c'est par quel prisme tu regardes. Mmh. Et c'est comme tout. Moi, il y a une chose qui me tient à cœur, parce que tu parles de ça, des sorcières modernes. Et il y a une femme, moi, que pour moi, c'est important de nommer, Noudem Dourak, qui est une chanteuse kurde qui a été incarcérée en 2015 en Turquie. Son chef d'inculpation, c'est d'avoir chanté en kurde. Et elle a été vraiment enfermée pour ça, pour sa liberté de création, en fait. Elle est ni combattante, ni terroriste. Pour moi, c'est un peu... C'est une sorcière moderne, dans ce sens où on l'enferme pour couper sa liberté d'expression, qui est une liberté d'expression artistique, poétique, qui fait de mal à personne, à part éveiller peut-être des consciences ou insuffler quelque chose de l'ordre de, ouais, d'une prise de conscience ou d'une réflexion. Et elles sont très nombreuses. Et après, là, c'est ce cas-là des femmes kurdes. Il y en a plein dans le monde. Les causes, elles sont énormes en ce moment.
Pardon, en fait, non, pardon, mais parce que le sous-titre de l'exposition sorcière, c'est Fantasme, Savoir, Liberté, et en fait, c'est un hommage. Alors, j'ai un problème en ce moment avec les noms. Son nom est à cette femme iranienne et au mouvement Vie, Femme, Vie, Liberté, en fait. Parce que justement, c'est un sujet qu'on veut pas déconnecter de ce qui se passe encore tous les jours. Donc, pardon,
tout est en lien.
C'est les sorcières. Voilà, exactement.
Et donc, toi, tu chantes hein, les chansons de cette femme-là aussi pour porter sa voix un peu plus loin et puis la faire entendre alors qu'elle ne peut pas le faire.
Bah, je chante une chanson. Je parle pas kurde. Donc, j'ai appris une chanson de Noudem que je chante à chaque concert parce que j'ai cette croyance un peu mystique et ésotérique que si moi qui ai le droit de chanter encore ce que je veux... Je chante une chanson de Noudem, c'est un peu une part d'elle qui continue à être libre. Mais et en revanche, c'est mon ami Naz Ok, qui est journaliste turc, qui m'a fait la traduction. Donc j'ai appris phonétiquement, mais je sais ce que je chante. Et voilà, enfin c'est. Et Zera Dogan, qui est aussi journaliste et peintre, qui en sortant de prison, après on est devenus amis. Et je lui ai dit, ça va, quand je chante, tu comprends. Elle m'a dit, ouais, ça va.
Donc c'est bon. Aujourd'hui, ton projet principal, ou en tout cas celui qui t'occupe beaucoup, pas mal en ce moment, c'est Colin Linder, le trio, donc, oui. Avec deux musiciens qui s'appellent Sébastien Chevillard et Guillaume Laguerre. Donc, non seulement tu vas jouer avec eux, je sais pas si vous êtes, si vous avez pris des places aussi pour le concert qui a lieu dans... genre 30 minutes là, bientôt à la Galerie David d'Angers, mais tu sors aussi un nouvel EP qui s'appelle Embrasez-moi. Alors on revient à la figure du feu, je pense que ça va être pas mal pour boucler la boucle de cette rencontre, et puis je vous propose d'écouter ce titre, Embrasez-moi. On écoute une minute, puis on conclut.
Elles me font déborder, ces gouttes sauvages, ces brases de passage. C'est un cri silencieux, un souffle lumineux, rhapsodie de nuages. Comment sonnent les étoiles et leurs danses atonales, la musique des sphères.
Là aussi, peut-être juste en quelques mots, c'est un titre qui n'est pas anodin, Embrasé. Qu'est-ce qui t'a traversé à ce moment-là?
Le texte, enfin en tout cas ce bout de refrain, c'est « Embrasez-moi en feu de joie ». Et donc il y avait effectivement cette idée de retourner le bûcher vers quelque chose de... comme de conjurer un sort, en fait, d'un embrasement lumineux. Et puis il y a l'embrasement amoureux aussi. Donc il y a ces deux choses-là qui se confondent.
On va rester sur cette image de l'embrasement dans la version positive qui clôt assez bien cette histoire de sorcière qu'on raconte depuis tout à l'heure. Merci Colline. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée à vous.